Jadaba,
Nakaravan Pass,
Wajafulu Kima,
Nakaravan Pass, Pass,
le chien à bois,
Nakaravan Pass,
les chiens à bois,
Nakaravan Pass,
et ils aboient,
Nakaravan Pass, Pass.
bato nga weto rutudu Maburu mabobanya weto rubisa Tosolo ngumo yewe mwane na bukenge Yele yele bambi sabato mi bakimi ni baya Bambi sabato mi bakimi ni baya
Bambi sabato mi bakimi ni baya Bambi sabato mi bakimi ni baya
Bambi sabato mi bakimi ni baya Bambi sabato mi bakimi ni baya
Bambi sabato mi bakimi ni baya Bambi sabato mi bakimi ni baya Bambi sabato mi bakimi ni baya Bambi sabato mi bakimi ni baya Bambi sabato mi bakimi ni baya
Bambi sabato mi bakimi ni baya Bambi sabato mi bakimi ni baya
Bambi sabato mi bakimi ni baya Bambi sabato mi bakimi ni baya Okay.
ke ya bola wowa mutabate wowa ni muromba kamlo ya muliwe Manungi twakla manzo seshi ilmu bidanga manyutu mubakana mitomu mabungu wa miyaro miyashike mwana ma wasaka kabe na bochi ve mwana ta wasaka bongo lubochi ve mwana ya ini
haya katika tika haya katika
toga bisobate
haya katika tika haya katika
Bochi bate Bana babo bilili Ibodi bia bokele Binunu bia bo manguzu Nibango tendi tendi Papo bache mangoche Bat milingu mioche mwana ma Ababa benga baba fuke mwana ta Mulongu musaka fwanu wewe mwana ya Ini
Haraka tika Tika Hayakatika
Bochi bate
Hayakatika Tika Hayakatika
Nibarekene Mukoho Mayulu ru wo ndra ndra bola mitongengeda mabunzu mabi mabi we moteme pese mwana ma wasakato bochi be mwana ta abanu wanyi bele mwana ya ii
hayakatika tika hayakatika
dilo bate
hayakatika tika hayakatika
Ganawe
Hayakatika Tika Hayakatika
Nibakondu ti
Hayakatika Tika
Eh oui, on est bien sur Radio Liberté à 89.4 avec la belle voix de Tita Nzebi. Radio Liberté, ça n'a pas changé, c'est la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu ni maître, et hobby comme hobby, sans sponsor ni publicité. Alors pour vos cartes de soutien, vos cartes d'auditeurs, une seule adresse, Librairie du Monde Liberté, 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement. On est bien sur Onde de Choc, le dernier comptoir où l'on cause, l'émission qui peut faire et défaire les carrières à loisir. Bon, alors on va se promener avec de la voix aujourd'hui, le nec plus ultra, puisqu'on va écouter Denis Lavant sur un texte de Robert Disnos de 1927, La liberté ou l'amour.
La liberté ou l'amour. Robert Disnos. Né à Paris le 4 juillet 1900, décédé à Paris le 13 décembre 1924, jour où il écrit ses lignes. Les profondeurs de la nuit. Quand j'arrivais dans la rue, les feuilles des arbres tombaient. L'escalier derrière moi n'était plus qu'un firmament semé d'étoiles parmi lesquelles je distinguais nettement l'empreinte des pas de telle femme dont les talons Louis XV avaient, durant longtemps, martelé le macadam des allées où couraient les lézards du désert, frêles animaux apprivoisés par moi, puis recueillis dans mon logis où ils firent cause commune avec mon sommeil. Les talons Louis XV les suivirent. Ce fut, je l'assure, une étonnante période de ma vie que celle où chaque minute nocturne marquait d'une empreinte nouvelle la moquette de ma chambre. Marque étrange et qui parfois me faisait frissonner. Que de fois, partant d'orage ou clair de lune, me relevais-je pour les contempler à la lueur d'un feu de bois, à celle d'une allumette ou celle d'un verre luisant, ces souvenirs de femmes venues jusqu'à mon lit, toutes nues hormis les bas et les souliers à hauts talons, conservés en égard à mon désir, et plus insolites qu'une ombrelle retrouvée en plein Pacifique par un paquebot. Talons merveilleux contre lesquels j'égratignais mes pieds, talons, sur quelle route sonnez-vous et vous reverrai-je jamais? Ma porte, alors, était grande ouverte sur le mystère, mais celui-ci est entré en la fermant derrière lui et désormais j'écoute, sans mot dire, un piétinement immense, celui d'une foule de femmes nues assiégeant le trou de ma serrure. La multitude de leurs talons Louis XV fait un bruit comparable au feu de bois dans l'âtre, aux champs de blé mûr, aux horloges dans les chambres désertes la nuit, à une respiration étrangère à côté du visage sur le même oreiller. Cependant, je m'engageais dans la rue des Pyramides. Le vent apportait des feuilles arrachées aux arbres des Tuileries et ces feuilles tombaient avec un bruit mou. C'étaient des gants. Gants de toutes sortes. Gants de peau. Gants de suède. Gants de fil long. C'est devant le bijoutier une femme qui se dégante pour essayer une bague et se faire baiser la main par le corsaire sanglot. C'est une chanteuse, au fond d'un théâtre houleux, venant avec des effluves de guillotine et des cris de révolution. C'est le peu d'une main qu'on peut voir au niveau des boutons. De temps à autre, plus lourdement qu'un météore à fin de course, tombait un gant de boxe. La foule piétinait ses souvenirs de baisers et d'étreintes sans leur prêter la déférente attention qu'ils sollicitaient. Seul, j'évitais de les meurtrir. Parfois même, je ramassais l'un d'eux. D'une étreinte douce, il me remerciait. Je le sentais frémir dans la poche de mon pantalon. Ainsi, sa maîtresse avait-elle dû frémir à l'instant fugitif de l'amour. Je marchais. Revenu sur mes pas et longeant les arcades de la rue de Rivoli, je vis enfin Louise, l'âme, marcher devant moi. Le vent soufflait sur la cité, les affiches du bébé Kadom appelaient à elle les émissaires de la tempête et sous leur garde la ville entière se convulsait. Ce furent d'abord deux gants qui s'étreignirent en une poignée d'invisibles mains et dont l'ombre longtemps dansa devant moi. Devant moi ? Non. C'était Louise, l'âme, qui marchait dans la direction de l'étoile. Singulière randonnée. Jadis, les rois marchèrent dans la direction d'une étoile ni plus ni moins concrète que toi, place de l'étoile avec ton arc, orbite où le soleil se loge comme l'œil du ciel, randonnée aventureuse et dont le but mystérieux était peut-être toi, que je sollicite, amour fatal, exclusif et meurtrier. Si j'avais été l'un des rois, ô Jésus, tu serais mort au berceau, étranglé, pour avoir interrompu sitôt mon voyage magnifique et brisé ma liberté, puis, sans doute, un amour mystique m'eût enchaîné et traîné en prisonnier sur les routes du globe que j'eusse rêvé parcourir libre. Je me complaisais à la contemplation du jeu de son manteau de fourrure contre son cou, des heurts de la bordure contre les bas de soie, au frottement deviné de la doublure soyeuse contre les hanches. Brusquement, je constatais la présence d'une bordure blanche autour des mollets. Celle-ci grandit rapidement, glissa jusqu'à terre, et quand je parvins à cet endroit, je ramassai le pantalon de fine batiste. Il tenait tout entier dans la main. Je le dépliai, j'y plongeais la tête avec délice. L'odeur la plus intime de Louise, l'âme, l'imprégnait. Quelle fabuleuse baleine, quel prodigieux cachalot distille une ambre plus odorante. Ô pêcheur perdu dans les fragments de la banquise et qui vous laisseriez périr d'émotion à tomber dans les vagues glaciales quand le monstre dépecé, la graisse et l'huile et les fanons à faire des corsets et des parapluies soigneusement recueillis, vous découvrez dans le ventre béant le cylindre de matière précieuse, le pantalon de Louise, l'âme. Quel univers! Quand je revins à la notion des décors, elle avait gagné du terrain. Trébuchant parmi les gants qui maintenant s'accolaient tous, la tête lourde d'ivresse, je la poursuivis, guidée par son manteau de léopard. À la porte-maillot, je relevai la robe de soie noire dont elle s'était débarrassée. Nue. Elle était nue, maintenant sous son manteau de fourrure fauve. Le vent de la nuit chargé de l'odeur rugueuse des voiles de lin recueillis au large des côtes, chargé de l'odeur du varech échoué sur les plages et en partie desséché, chargé de la fumée des locomotives en route vers Paris, chargé de l'odeur de chaux des rails après le passage des grands express, chargé du parfum fragile et pénétrant des gazons humides, des pelouses devant les châteaux endormis, chargé de l'odeur de ciment des églises en construction, le vent lourd de la nuit devait s'engouffrer sous son manteau et caresser ses hanches et la face inférieure de ses seins. Le frottement de l'étoffe sur ses hanches éveillait sans doute en elle des désirs érotiques, cependant qu'elle marchait, allée des acacias, vers un but inconnu. Des automobilistes se croisaient, la lueur des phares balayait les arbres, le sol se hérissait de monticules, Louise, l'âme, se hâtait. Je distinguais très nettement la fourrure du léopard. Ça avait été un furieux animal. Durant des années, il avait terrorisé une contrée. On voyait parfois sa silhouette souple se profiler sur la basse branche d'un arbre ou sur un rocher, puis, à l'aube suivante, des caravanes de girafes et d'antilopes sur le chemin des abreuvoirs témoignaient auprès des indigènes d'une épopée sanglante qui avait profondément inscrit ses griffes sur les troncs de la forêt. Cela dura plusieurs années. Les cadavres, si les cadavres pouvaient parler, auraient pu dire que ses crocs étaient blancs et sa queue robuste, plus dangereuse que le cobra, mais les morts ne parlent pas. Encore moins les squelettes, encore moins les squelettes de girafes, car ces gracieux animaux étaient la proie favorite du léopard. Un jour d'octobre, comme le ciel verdissait, les monts dressés sur l'horizon virent le léopard, dédaigneux pour une fois des antilopes, des mustangs et des belles, hautaines et rapides girafes, ramper jusqu'à un buisson d'épines. Toute la nuit et tout le jour suivant, il se roula en rugissant. Au lever de la lune, il s'était complètement écorché et sa peau, intacte, gisait à terre. Le léopard n'avait pas cessé de grandir durant ce temps. Au lever de la lune, il atteignait le sommet des arbres les plus élevés. À minuit, il décrochait de son ombre les étoiles. Ce fut un extraordinaire spectacle que la marche du léopard écorché sur la campagne, dont les ténèbres s'épaississaient de son ombre gigantesque. Il traînait sa peau telle que les empereurs romains n'en portèrent jamais de plus belle, eux, ni le légionnaire choisi parmi les plus beaux et qu'ils aimaient. Procession d'enseignes et de licteurs, procession de lucioles, ascension miraculeuse, rien n'égala jamais en surprise la marche du fauve sanglant sur le corps duquel les veines saillaient en bleu. Quand il atteignit la maison de Louise Lame, la porte s'ouvrit d'elle-même et, avant de crever, il n'eut que la force de déposer sur le perron, au pied de la fatale et adorable fille, le suprême hommage de sa fourrure. Ses ossements encombrent encore de nombreuses routes du globe. L'écho de son cri de colère, répercuté longtemps par les glaciers et les carrefours, est mort comme le bruit des marées, et Louise Lame marche devant moi, nue sous son manteau. Encore quelques pas et voici qu'elle dégrafe ce dernier vêtement. Il choit. Je cours plus vite. Louise Lame est nue désormais, toute nue dans le bois de Boulogne. Les autos s'enfuient en barrissant. Leurs phares éclairent tantôt un bouleau, tantôt la cuisse de Louise Lame, sans atteindre cependant la toison sexuelle. Une tempête de rumeurs angoissantes passe sur les localités voisines, Puteaux, Saint-Cloud, Billancourt. La femme nue marche environnée de claquements d'invisibles étoffes. Paris ferme portes et fenêtres, éteint ses lampadaires. Un assassin dans un quartier lointain se donne beaucoup de mal pour tuer un impassible promeneur. Des ossements encombrent la chaussée. La femme nue heurte à chaque porte, soulève toute paupière close. Du haut d'un immeuble, bébé cadom magnifiquement éclairé annonce des temps nouveaux. Un homme guette à sa fenêtre, il attend. Qu'attend-il ? Une sonnerie éveille un couloir, une porte cochère se ferme, une auto passe. Bébé cadom magnifiquement éclairé reste seul, témoin attentif des événements dont la rue, espérons-le, sera le théâtre.
Quartier Saint-Merry. Au coin de la rue de la Verrerie et de la rue Saint-Martin, il y a un marchand de mélasse. Un jour d'avril sur le trottoir, un quart d'heure de matelas glissa, tomba, éventra l'oreiller qu'il portait. Cela fit voler des plumes plus haut que le clocher de Saint-Merry. Quelques-unes se collèrent au baril de mélasse. Je suis repassé un soir par là. Un soir d'avril. Un ivrogne dormait dans le ruisseau. La même fenêtre était éclairée. Du côté de la rue des juges consuls chantaient des gamins. Là, devant cette porte, je m'arrête. C'est de là qu'elle partit. Sa mère échevelée hurlait à la fenêtre. 13 ans à peine vêtue, des yeux flambants sous des cils noirs, les membres grêles. En vain, le père se leva-t-il et vint à pas pesants, traînant ses savates, attester de son malheur le ciel pluvieux. En vain, elle courait à travers les rues. Elle s'arrêta un instant rue des Lombards, à l'endroit exact où par la suite passa le joueur de flûte d'Apollinaire. Du cloître Saint-Méry naissaient des rumeurs. Le sang coulait dans les ruisseaux, prémices du printemps et des futures lunaisons. L'horloge de la Gerbe d'Or répondait aux autres horloges, au bruit des attelages roulant vers les halles. La fillette à demi-nue rencontra un pharmacien qui baissait sa devanture de fer. Les lueurs jaunes et vertes des globes brillaient dans ses yeux. Les moustaches humides pendaient. « Que fais-tu, la gosse, à cette heure, dans la rue ? Il est minuit, va te coucher. Dans mon jeune temps, j'aimais traîner la nuit, j'aimais rêver sur des livres la nuit. Où sont les nuits de mon jeune temps ? Le travail et l'effort de vivre m'ont rendu le sommeil délicieux. C'est d'un autre amour que j'aime la nuit. Un peu plus loin, au long d'un pont, un régiment passait pesamment. La petite fille écoutait le pharmacien. Liabeuf ou son fantôme maudissait les menteurs du côté de la rue Aubry-le-Boucher. Va te coucher, petite. Les horloges sonnent minuit. Ce n'est ni l'heure ni l'âge de courir les rues. L'eau clapotait contre un ponton. Trois vieillards parlaient sous le pont. L'un disait oui et l'autre non. Oui, le temps est court. Non, le temps est long. Le temps n'existe pas, dit le troisième. Alors parut la petite fille. En sifflotant, le pharmacien s'éloignait dans la rue Saint-Martin et son ombre grandissait. « Bonjour, petite, » dit l'un des vieux. « Bonsoir, » dirent les deux autres. « Vous sentez mauvais ?» dit la petite. Le régiment s'éloignait dans la rue Saint-Jacques. Une femme criait sur le quai. Sur la berge, un oiseau blessé sautillait. « Vous sentez mauvais ?» dit la petite. « Nous sentirons tous mauvais, » dit le premier vieillard, « quand nous serons morts. » « Vous êtes mort déjà, » dit la petite, « puisque vous sentez mauvais. Moi seule ne mourrai jamais. » On entendit un bruit de vitres brisées. Presque aussitôt retentit la trompe grave des pompiers. Des lueurs se reflétaient dans la Seine. On entendit courir des hommes, puis ce fut le bruit de la foule. Les pompes rythmaient la nuit. Des rires se mêlaient aux cris. Un manège de chevaux de bois se mit à fonctionner. Chevaux de bois aux cochons dorés, oubliés sur le parvis depuis la dernière fête. Charlemagne rougeoyait. Impassible, les heures sonnaient. Un malade agonisait à l'Hôtel Dieu. L'ombre du pharmacien qui s'éloignait vers Saint-Martin-des-Champs épaississait la nuit. Les soldats chantaient déjà sur la route. Des paysans, pour les voir, collaient aux fenêtres leurs faces grises. La petite fille remontait l'escalier qui mène de la berge au quai. Une péniche fantôme passait sous le pont. Les trois vieillards se préparaient à dormir dans les courants d'air au bruit de l'eau. L'incendie éventrait ses dernières barriques. Les poissons morts au fil de l'eau, flèches dans la cible des ponts, passaient avec des reflets, tintamarre de voitures, chants d'oiseaux, sons de cloches. « Oh, petite fille, ta robe tombe en lambeaux, on voit ta peau. Où vas-tu, petite fille ? C'est encore toi, le pharmacien ? Avec tes yeux ronds comme des billes, détraqué comme une vieille montre, là-bas, sur le parvis Notre-Dame, le manège hennissait sa musique. Des chevaurettes se cabraient au carrefour. Hideusement nus, les trois vieillards s'avançaient dans la rue. Au coin des rues Saint-Martin et de la Verrerie, une plume flottait à ras du trottoir, avec de vieux papiers chassés par le vent. Un chant d'oiseaux s'éleva, square des innocents. Un autre retentit à la tour Saint-Jacques. Il y eut un long cri rue Saint-Bon. Et l'étrange nuit s'effilocha sur Paris.
Couplet de la rue Saint-Martin. Je n'aime plus la rue Saint-Martin depuis qu'André Platard l'a quittée. Je n'aime plus la rue Saint-Martin. Je n'aime rien, pas même le vin. Je n'aime plus la rue Saint-Martin depuis qu'André Platard l'a quittée. C'est mon ami, c'est mon copain. Nous partagions la chambre et le pain. Je n'aime plus la rue Saint-Martin. C'est mon ami, c'est mon copain. Il a disparu un matin. Ils l'ont emmené, on ne sait plus rien. On ne l'a plus revu dans la rue Saint-Martin. Pas la peine d'implorer les saints, Saint-Méry, Jacques, Gervais et Martin. Pas même Valérien qui se cache sur la colline. Le temps passe, on ne sait rien. André Platard a quitté la rue Saint-Martin. Art poétique. Par le travers de la gueule, ramassé dans la boue et la gadoue, craché, vomi, rejeté, je suis le ver témoin du souffle de mon maître. Déchet, rebut, ordure, comme le diamant, la flamme et le bleu de ciel, pas pur, pas vierge, mais baisé dans tous les coins, baisé, enfilé, sucé, enculé, violé, je suis le ver témoin du souffle de mon maître, baiseuse et violatrice, pas pucelle, rien de plus sale qu'un pucelage. Ouf, ça y est, on en sort. Bonne terre boueuse où je mets le pied, je suis pour le vent, le grand vent et la mer. Je suis le ver témoin du souffle de mon maître. Ça craque, ça pète, ça chante, ça ronfle. Grand vent, tempête, cœur du monde. Il n'y a plus de sale temps. J'aime tous les temps, j'aime le temps. J'aime le grand vent. Le grand vent, la pluie, les cris, la neige, le soleil, le feu et tout ce qui est de la terre boueuse ou sèche et que ça croule. Et que ça pourrisse, pourrissez, vieille chair, vieux os, par le travers de la gueule, et que ça casse les dents, et que ça fasse saigner les gencives. Je suis le ver, témoin du souffle de mon maître. L'eau coule avec son absurde chant de colibri, de rossignol et d'alcool brûlant dans une casserole, coule le long de mon corps. Un champignon pourri au coin de la forêt ténébreuse dans laquelle s'égare et patauge pieds nus une femme du tonnerre de Dieu. Ça pourrit dur au pied des chênes. Une médaille d'or n'y résiste pas. C'est mou, c'est profond, ça cède. Ça pourrit dur au pied des chênes. Une lune d'il y a pas mal de temps se reflète dans cette pourriture. Odeur de mort, odeur de vie, odeur d'étreinte. De cocasses créatures d'ombre doivent se rouler et se combattre et s'embrasser ici. Ça pourrit dur au pied des chênes et ça souffle encore plus dur au sommet. Ni secoué et les fameux colibris de tout à l'heure. Précipités, rossignols époumonés, feuillage des forêts immenses et palpitants. Souillée et froissée comme du papier à chiottes, marée tumultueuse et montante du sommet des forêts, vos vagues attirent vers le ciel les collines dodues dans une écume de clairières et de pâturages veinés de fleuves et de minerais. Enfin, le voilà qui sort de sa bauge. L'écorché sanglant qui chante avec sa gorge à vif. Pas d'ongle au bout de ses doigts,
Orphée qu'on l'appelle, baiseur à froid confident des sibylles, Bacchus châtré, délirant et clairvoyant, jadis homme de bonne terre, issu de bonnes graines par bon vent, parle, saigne et crève, dents brisées, reins fêlés, artères nouées, cœur de rien, tandis que le fleuve coule, roule et saoule de grotesques épaves de péniches doux, coule du charbon, gagne la plaine et gagne la mer, écume roule et s'use sur le sable, le sel et le corail. J'entrerai dans tes vagues à la suite du fleuve épuisé. Gare à tes flottes, gare à tes coraux, à ton sable, à ton sel, à tes festins, sortis des murailles à mots de passe, par le travers des gueules, par le travers des dents, beau temps pour les hommes dignes de ce nom, beau temps pour les fleuves et les arbres, beau temps pour la mer, reste l'écume et la boue, et la joie de vivre, et une main dans la mienne, et la joie de vivre, je suis le ver témoin du souffle de mon maître.
Rue Aubry le Boucher, en démolition. Rue Aubry le Boucher, on peut te foutre en l'air, bousiller tes tapins, tes tôles et tes crèches, où se faisaient trancher des sœurs comacoblèches, portant bavettes en deuil sous des nichons ridères. On peut te maquiller de béton et de fer, on peut virer ton blaze et dégommer ta dèche. Ton casier judiciaire aura toujours en flèche l'Iabœuf qui fit risette un matin à Déblaire. À Sorgues, aux innocents, les esgourdes m'entintent, son fantôme poursuit les flics, il les esquinte. Par vanne, ils l'ont donné, sapé, guillotiné. Mais il décare, malgré eux, il court la belle, laissant en rade indique, roussins et hirondelles, que de sa lame Aubry tatoue au résiné.
La caravane passe,
ni bakaya,
la caravane. d'abat.
La caravane passe.
Ouais, tiens, foulou qui marche.
La caravane passe, passe.
Machuni, Mayora.
La caravane passe.
Bédato, Shinatoso.
La caravane passe.
Malède, Nalède.
La caravane passe.
Eh bien, toujours au 01 43 71 89 40 sur Radio Libertaire. Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Alors, ça n'a pas changé. Librairie du Monde Libertaire pour vos cartes de soutien, vos cartes d'auditeurs. 145 rue Amelot dans le 11e arrondissement. C'est ouvert du mardi au samedi, en début d'après-midi, jusque vers le soir, 19h sûrement. Il n'y a que le samedi, vous pouvez y aller à 11h. On vous y attends. Enfin, toujours sur Onde de Choc, le dernier comptoir au long cours, l'émission qui préfère et défaire les carrières à loisir. On va continuer avec la voix d'Ève Gréliquez et celle de Denis Lavant et le texte de Robert Desnos.
Une voix. Une voix qui vient de si loin qu'elle ne fait plus tinter les oreilles. Une voix comme un tambour. Voilée. Parvient pourtant distinctement jusqu'à nous. Bien qu'elle semble sortir d'un tombeau, elle ne parle que d'été et de printemps. Elle emplit le corps de joie. Elle allume aux lèvres le sourire. Je l'écoute. Ce n'est qu'une voix humaine qui traverse les fracas de la vie et des batailles, l'écroulement du tonnerre et le murmure des bavardages. Et vous, ne l'entendez-vous pas? Elle dit « La peine sera de peu de durée ». Elle dit « La belle saison est proche ». Ne l'entendez-vous pas?
Confession d'un enfant du siècle. Je jouais seul. Mes 6 ans vivaient en rêve. L'imagination nourrie de catastrophes maritimes, je naviguais sur de beaux navires vers des pays ravissants. Les lames du parquet imitaient à s'y méprendre les vagues tumultueuses, et je transformais à mon gré la commode en continent et les chaises en îles désertes. Traversées hasardeuses. Tantôt le vengeur s'enfonçait sous mes pieds, tantôt la méduse coulait à fond dans une mer de chêne encaustiquée. Je nageais alors à force de bras vers la plage du tapis. C'est ainsi que j'éprouvais un jour la première émotion sensuelle. Je l'identifiais instinctivement aux affres de la mort et dès lors, à chaque voyage, je convins de mourir noyé dans un océan vague où le souvenir des vers d'Océano Nox. Oh, combien de marins, combien de capitaines qui sont partis joyeux vers des rives lointaines, lus par hasard dans un livre dérobé, se mêlaient à l'épuisante volupté. Hugo domina mon enfance. De même que je n'ai jamais pu faire l'amour sans reconstituer les drames innocents de ma jeunesse, je n'ai jamais pu éprouver d'émotions poétiques d'une autre qualité que celle que j'éprouvais à la lecture de la légende des siècles et des misérables. Je vécus ainsi de 6 à 9 ans. Les derniers échos de l'affaire Dreyfus, des bribes de conversations entendues, le chiffre 93, le nom de Robespierre qui réunit mes deux prénoms, Robert et Pierre, me permettait d'imaginer une république révolutionnaire pour laquelle je me battais sur des barricades de fauteuils et de tabourets. nous habitions en face de Saint-Méry. Le souvenir de l'insurrection du cloître se confondait avec les cloches du Nord dans l'admirable chanson du Pont du Nord et, de mon lit, quand je m'éveillais la nuit, je pouvais apercevoir un bout de trottoir éclairé sinistrement par un réverbère évocateur d'attaques nocturnes. J'ai d'ailleurs la bonté de prévenir le lecteur que je mêle le rêve et la réalité, le désir et la possession, le futur et le passé, qu'il se le tienne pour dit. Gustave Aimard me donna la première image de la femme. Je poursuivis alors en compagnie d'Espagnols fatales, le cheval sauvage et le chasseur de chevelure dans les savanes parfumées. L'héroïsme désormais se confondit avec l'amour. Le sang coula gratuitement pour satisfaire des lèvres sensuelles, pour provoquer le tressaillement de seins réguliers. La solitude où je vivais se confondit avec les grandes solitudes naturelles où il n'y a place que pour l'image de la passion. Au reste, j'allais à l'école. La maîtresse qui nous enseignait à lire et à écrire était jeune. Je ne rêvais que d'elle et rien ne m'honorait plus que son approbation. Un jour, l'un des élèves ayant été particulièrement insupportable, elle le fouetta. Le spectacle de cette honteuse nudité, l'humiliation ressentie par quelqu'un de mon sexe, la cruauté sensuelle de la jeune femme m'émurent si profondément que je ressentis aussitôt les sensations familières à mes naufrages imaginés. Une haine solidaire de celle de mon camarade se mêla à mon affection pour la jeune maîtresse. J'avais besoin de me venger et cependant elle m'était plus chère que jamais depuis cet incident. Je guettais dans la rue les petites filles se rendant à l'école. Je les pinçais, je les giflais, je leur tirais les cheveux et c'est d'un cœur rasséréné que je rentrais dans la classe où des lettres de craie rayonnaient comme des astres sur le tableau noir. Je rêvais de la vengeance, tandis que l'annonnement des élèves, pareil aux gammes monotones d'une jeune pianiste, se mêlait au sifflement du gaz. L'amour n'a pas changé pour moi. J'ai pu me perdre dans des déserts de vulgarité et de stupidité. J'ai pu fréquenter assidûment les pires représentants du faux amour. La passion a gardé pour moi sa saveur de crime et de poudre. Ceux que j'ai le plus aimés, ceux que j'aime le plus, je ne rêve rien tant que d'être séparé d'eux, que de vaincre leur tendresse, quitte à souffrir cruellement de leur absence. Je ne sais jusqu'où l'amour conduira mes désirs. Ils seront licites, puisque passionnés. Révolution, tendresse, passion. Je méprise ceux dont vous ne bouleversez pas la vie, ceux que vous n'êtes pas capables de perdre et de sauver.
Rose, c'est la vie.
Rose, c'est la vie, inscrira-t-elle longtemps au cadran des astres le cadastre des ans?
Rose, c'est la vie, voudrait bien savoir si l'amour, cette colle à mouche, rend plus dures les molles couches.
Croyez-vous que Rose, c'est la vie, connaisse ces jeux de fous qui mettent le feu aux joues?
Dans le sommeil de Rose, c'est la vie, il y a un nain sorti d'un puits qui vient manger son pain la nuit.
Rose, c'est la vie, propose que la pourriture des passions devienne la nourriture des nations.
Amoureux voyageurs sur la carte du tendre, pourquoi nourrir vos nuits d'une tarte de cendre?
Rose, c'est la vie, vous engage à ne pas prendre les verrues des saints pour les vertus des saintes.
Rose, c'est la vie, n'est pas persuadée que la culture du moi puisse amener la moiteur du cul.
Plus que poli pour être honnête, plus que poète pour être honni.
Habitant de Sodome, au feu du ciel, préférez le fiel de la queue.
Beau corps sur les billards, vous serez peau sur les corbillards.
Le mépris des chansons ouvre la prison des méchants.
La jolie sœur disait « Mon droit d'aînesse pour ton doigt, Ernest !»
L'acte des sexes et l'axe des sectes.
Mot. Êtes-vous des mythes et pareil aux myrtes des morts?
L'argot de rose, c'est la vie. N'est-ce pas l'art de transformer en cigogne les cygnes?
Les lois de nos désirs sont des dés sans loisirs.
Nos peines sont des peignes de givre dans des cheveux ivres. Les gorges froides à Simone. À la poste d'hier, tu télégraphieras que nous sommes bien morts avec les hirondelles. Facteur, triste facteur, un cercueil sous ton bras. Va-t'en porter ma lettre aux fleurs à tire-d'aile. La boussole est en os, mon cœur tutifiera. Quelques tibias marquent le pôle et les marelles pour amputer ont un sinistre aspect d'opéra que pour mon épitaphe, un dieu taille ses grêles. C'est ce soir que je meurs, ma chère tombissoire. Ton regard le plus beau ne fut qu'un accessoire de la machinerie étrange du bonjour. Adieu, je vous aimais sans scrupule et sans ruse. Ma folie méricourt, ma silencieuse intruse, boussole à flèche torse, annonce le retour.
À la mystérieuse, 1926. Oh, douleur de l'amour, comme vous m'êtes nécessaire et comme vous m'êtes cher. Mes yeux qui se ferment sur des larmes imaginaires, mes mains qui se tendent sans cesse vers le vide. J'ai rêvé cette nuit de paysages insensés et d'aventures dangereuses, aussi bien du point de vue de la mort que du point de vue de la vie, qui sont aussi le point de vue de l'amour. Au réveil, vous étiez présente. Ô douleur de l'amour, ô muse du désert, ô muses exigeantes. Mon rire et ma joie se cristallisent autour de vous. C'est votre phare, c'est votre poudre, c'est votre rouge, c'est votre sac de peau de serpent, c'est vos bas de soie. Et c'est aussi ce petit pli entre l'oreille et la nuque, à la naissance du cou. C'est votre pantalon de soie et votre fine chemise et votre manteau de fourrure. Votre ventre rond, c'est mon rire et mes joies, vos pieds et tous vos bijoux. En vérité, comme vous êtes bien vêtue et bien parée. Ô douleur de l'amour, anges exigeants, voilà que je vous imagine à l'image même de mon amour, que je vous confonds avec lui. Ô douleur de l'amour, vous que je crée et habille, vous vous confondez avec mon amour dont je ne connais que les vêtements et aussi les yeux, la voix, le visage, les mains, les cheveux, les dents, les yeux. J'ai tant rêvé de toi. J'ai tant rêvé de toi que tu perds ta réalité. Est-il encore temps d'atteindre ce corps vivant et de baiser sur cette bouche la naissance de la voix qui m'est chère? J'ai tant rêvé de toi que mes bras, habitués en étreignant ton ombre à se croiser sur ma poitrine, ne se plieraient pas au contour de ton corps. Peut-être. Et que, devant l'apparence réelle de ce qui me hante et me gouverne depuis des jours et des années, je deviendrais une ombre, sans doute. Oh, balance sentimentale! J'ai tant rêvé de toi qu'il n'est plus temps, sans doute, que je m'éveille. Je dors debout, le corps exposé à toutes les apparences de la vie et de l'amour, et toi, la seule qui compte aujourd'hui pour moi. Je pourrais moins toucher ton front et tes lèvres que les premières lèvres et le premier front venu. J'ai tant rêvé de toi, tant marché, parler, coucher avec ton fantôme, qu'il ne me reste plus peut-être, et pourtant, qu'à être fantôme parmi les fantômes, et plus ombre cent fois que l'ombre qui se promène et se promènera allègrement sur le cadran solaire de ta vie. Les espaces du sommeil. Dans la nuit, il y a naturellement les sept merveilles du monde, et la grandeur et le tragique et le charme. Les forêts s'y heurtent confusément avec des créatures de légende cachées dans les fourrés. Il y a toi. Dans la nuit, il y a le pas du promeneur et celui de l'assassin et celui du sergent de ville et la lumière du réverbère et celle de la lanterne du chiffonnier. Il y a toi. Dans la nuit passent les trains et les bateaux et le mirage des pays où il fait jour. Les derniers souffles du crépuscule et les premiers frissons de l'aube. Il y a toi. Un air de piano. Un éclat de voix, une porte claque, une horloge. Et pas seulement les êtres et les choses et les bruits matériels, mais encore moi qui me poursuis ou sans cesse me dépasse. Il y a toi l'immolé, toi que j'attends. Parfois d'étranges figures naissent à l'instant du sommeil et disparaissent. Quand je ferme les yeux, des floraisons phosphorescentes apparaissent et se fanent et renaissent comme des feux d'artifice charnus. Des pays inconnus que je parcours en compagnie de créatures. Il y a toi sans doute, ô belle et discrète espionne, et l'âme palpable de l'étendue. Et les parfums du ciel et des étoiles, et le chant du coq d'il y a 2000 ans, et le cri du paon dans des parcs en flammes et des baisers. Des mains qui se serrent sinistrement dans une lumière blafarde, et des essieux qui grincent sur des routes médusantes. Il y a toi, sans doute, que je ne connais pas, que je connais au contraire, mais qui présente dans mes rêves s'obstine à s'y laisser deviner sans y paraître. Toi qui restes insaisissable dans la réalité et dans le rêve, toi qui m'appartiens de par ma volonté de te posséder en illusion, mais qui n'approche ton visage du mien que mes yeux clos aussi bien au rêve qu'à la réalité. Toi qu'en dépit d'une rhétorique facile où le flot meurt sur les plages, où la corneille vole dans des usines en ruine, où le bois pourrit en craquant sous un soleil de plomb, toi qui es à la base de mes rêves et qui secoue mon esprit plein de métamorphoses et qui me laisse ton gant quand je baise ta main. Dans la nuit, il y a les étoiles et le mouvement ténébreux de la mer. Des fleuves, des forêts, des villes, des herbes, des poumons de millions et millions d'êtres. Dans la nuit, il y a les merveilles du monde. Dans la nuit, il n'y a pas d'ange gardien, mais il y a le sommeil. Dans la nuit, il y a toi. Dans le jour aussi. L'épitaphe.
10 juin 1936. Au détour du chemin, il étendit la main devant le beau matin. Le ciel était si clair que les nuages dans l'air ressemblaient à l'écume de la mer. Comme il riait en haut de la colline, parut la fille de belle mine qui venait de la maison voisine. Et la fille riait aussi. Et quand son rire s'évanouit, les oiseaux chantaient à nouveau. Elle rit de le voir rire et les colombes qui se mirent dans le bassin aux calmes eaux écoutèrent son rire dans l'air s'évanouir. Jamais plus ils ne se revirent. Elle passa souvent sur le chemin où l'homme tendit la main à la lumière du matin. Maintes fois il se souvint d'elle et sa mémoire trop fidèle se reflétait dans ses prunelles. Maintes fois, elle se souvint de lui, et dans l'eau profonde du puits, c'est son visage qu'elle revit. Les ans passèrent, un à un, en pâlissant comme au matin les cartes qu'un joueur tient dans sa main. Tous deux pourrissent dans la terre, mordus par les vers sincères. La terre emplit leur bouche pour les faire taire. Peut-être s'appellerait-il dans la nuit, si la mort n'avait horreur du bruit. Le chemin reste et le temps fuit. Mais chaque jour, le beau matin comme un œuf tombe dans la main du passant sur le chemin. Chaque jour, le ciel est si clair que les nuages dans l'air sont comme l'écume sur la mer. Mort, épave sombrée dans la terre, nous ignorons vos misères chantées par les solitaires. Nous nageons, nous vivons dans l'air pur de chaque saison. La vie est belle et l'air est bon.
L'épitaphe. J'ai vécu dans ces temps et depuis 1000 années, je suis mort. Je vivais, non déchu, mais traqué. Toute noblesse humaine étant emprisonnée, j'étais libre parmi les esclaves masqués. J'ai vécu dans ces temps et pourtant j'étais libre. Je regardais le fleuve et la terre et le ciel tourner autour de moi, garder leur équilibre et les saisons fournir leurs oiseaux et leur miel. Vous qui vivez, qu'avez-vous fait de ces fortunes? Regrettez-vous les temps où je me débattais? Avez-vous cultivé pour des moissons communes? Avez-vous enrichi la ville où j'habitais? Vivant, ne craignez rien de moi, car je suis mort. Rien ne survit de mon esprit ni de mon corps. Ce cœur qui haïssait la guerre, ce cœur qui haïssait la guerre, voilà qu'il bat pour le combat et la bataille. Ce cœur qui ne battait qu'au rythme des marées, à celui des saisons, à celui des heures du jour et de la nuit. Voilà qu'il se gonfle et qu'il envoie dans les veines un sang brûlant de salpêtre et de haine, et qu'il mène un tel bruit dans la cervelle que les oreilles en sifflent, et qu'il n'est pas possible que ce bruit ne se répande pas dans la ville et la campagne, comme le son d'une cloche appelant à l'émeute et au combat. Écoutez, je l'entends qui me revient renvoyé par les échos. Mais non, c'est le bruit d'autres cœurs, de millions d'autres cœurs battant comme le mien à travers la France. Ils battent au même rythme pour la même besogne tous ces cœurs. Leur bruit est celui de la mer à l'assaut des falaises. Et tout ce sang porte dans des millions de cervelles un même mot d'ordre. Révolte contre Hitler et mort à ses partisans. Pourtant ce cœur haïssait la guerre et battait au rythme des saisons. Mais un seul mot, liberté, a suffi à réveiller les vieilles colères, et des millions de Français se préparent dans l'ombre à la besogne que l'aube proche leur imposera. Car ces cœurs qui haïssaient la guerre battaient pour la liberté au rythme même des saisons et des marées, du jour et de la nuit.
Sol de Compiègne.
Craie et silex, et herbe, et craie et silex, et silex, et poussière, et craie et silex, herbe, et silex, et craie, silex, et craie, silex, silex, et craie, et craie, silex, et craie.
Quelque part entre La Haye les Roses, et Bourg-la-Reine et Antony, entre les roses de La Haye, entre Clamart et Antony, craie et silex.
Craie et silex et craie.
Et silex.
Et silex et
craie. Silex et craie. Et silex.
Entre les roses de La Haye et les arbres de Clamart, avez-vous vu la sirène d'Antony qui chantait à Bourg-la-Reine et qui chante encore à Fresnes? Sol de Compiègne, terre grasse et cependant stérile.
terre de silex et de craie, dans ta chair.
Nous marquons l'empreinte de nos semelles pour qu'un jour la pluie de printemps s'y repose comme l'œil d'un oiseau et reflète le ciel de Compiègne, avec tes images et tes astres.
Lourds de souvenirs et de rêves, plus durs que le silex, plus dociles que la craie sous le couteau. À Paris, près de Bourg-la-Reine, j'ai laissé seuls mes amours, à que les bercent les sirènes. Je dors tranquille, ô mes amours, et je cueille à la île les roses que je vous porterai un jour, alourdies de parfums et de rêves, et comme vos paupières écloses, au clair soleil d'une vie moins brève, pleine d'éclairs comme un silex, lumineuse comme la craie.
Et craie, et silex, et craie, sol de Compiègne, sol fait pour la marche.
Et la longue station des arbres, sol de Compiègne, pareil à tous les sols du monde, sol de Compiègne. Un jour nous secourons notre poussière sur ta poussière et nous partirons en chantant.
Nous partirons en chantant vers nos amours. La vie est brève et bref le temps.
Rien n'est plus beau que nos amours.
Nous laisserons notre poussière dans la poussière de Compiègne.
Et nous emporterons nos amours. Nos amours qui nous en souviennent,
qui nous en souviennent.
Eh bien, au 01 43 71 89 40, c'était la voix d'Eve Grélikès et de Denis Lavant, et le texte bien sûr superbe de Robert Desmous. On est bien sur Radio Liberté, la radio sans Dieu ni maître de la Fédération anarchiste, et donc sur Onde de Choc, le dernier comptoir où l'on cause.
Gabon, dictature inavouée, où la liberté est bien emprisonnée. Les dirigeants parlent juste pour s'entendre parler. Il nous faut la paix, arrêtez donc de crier. En fonction de qui.